Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis pasteur, donc c'est comme pasteur que je vais intervenir. Je ne suis pas une spécialiste d'éthique, mais c'est vrai que j'ai été interpellée par ce texte de Caïn et Abel qui est un petit peu comme un fragment de miroir qui vient nous refléter, enfin, qui vient refléter nos questions sur la liberté, la fraternité, la delphité et puis l'égalité. On est au tout début de la Bible, dans la Genèse. Les deux frères sont présentés comme la deuxième génération de l'humanité, après que leurs parents, Adam et Ève, ont trahi Dieu et précipité le malheur dans le jardin d'Éden. Et je vous propose de réécouter ce texte, puisque vous le connaissez, mais de l'écouter ensemble, et puis de dégager quelques pistes de réflexion vraiment sur notre thème. Donc je lis dans le chapitre 4 de la Genèse. De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et elle dit alors « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur ». Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petits bétails et Caïn cultivait le sol. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva une profonde irritation, il en fut abattu. Le Seigneur lui dit « À quoi bon te fâcher et être abattu ? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché est à ta porte comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn s'adressa à son frère, et quand ils furent au champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je n'en sais rien. Est-ce à moi de veiller sur mon frère ?» Le Seigneur répliqua, « Pourquoi as-tu fait cela ? J'entends le sang de ton frère crier du sol vers moi. Tu es désormais un maudit chassé du sol qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. » C'est pourquoi tu auras beau cultiver le sol, il ne te donnera plus sa vitalité, tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur, ma peine est trop lourde à porter, tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable, je vais devoir me cacher loin de toi, je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre, quiconque me trouvera pourra me tuer. Alors le Seigneur répondit, « Non, si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. » Alors le Seigneur mit sur Caïn un signe distinctif pour empêcher qu'il soit frappé par ceux qui le rencontreraient. Puis Caïn partit habiter au pays de Nod, loin de la présence du Seigneur, à l'est d'Éden. Alors désolée de terminer presque la nuit avec un texte aussi violent. C'est terrible parce qu'on voit la mort et le malheur arriver dans le jardin d'Éden après la transgression d'Adam et Ève, mais cette première mort, ce n'est pas une mort accidentelle, ce n'est pas une mort naturelle, c'est prémédité, volontaire, conscient, et c'est terrible puisque c'est entre deux frères. L'humanité est devenue fratricide. Alors juste quelques éclairages, évidemment, on pourrait dire beaucoup de choses, hein, mais... quelques éclairages en lien avec nos valeurs et comment ce texte vient nous faire réfléchir à nos valeurs. Le premier point que je voudrais aborder, c'est comment la fraternité ou adelphité entre en tension en fait, avec l'égalité. Cette tension. D'abord, la fraternité renvoie à une origine commune, de façon très prosaïque, à nos parents, et du coup, de là, à une proximité. Celui ou celle que j'appelle mon frère ou ma sœur, C'est celui ou celle en qui je me reconnais d'une certaine façon, je reconnais quelque chose qu'on partage, et de ce fait, je reconnais une certaine égalité. On est fait de la même matière. Et ça implique une solidarité, et dans solidarité, il y a ce partage de cette même matière, et en même temps, une responsabilité mutuelle. On voit que cette responsabilité, elle est sous-entendue, et qu'elle est trahie lorsque Dieu dit « Mais qu'as-tu fait de ton frère ?» La fraternité évoque la fratrie, et on pourrait avoir une vision très idéale de la fraternité, mais il me semble qu'au sein de toute fratrie, il y a des places, des rôles, des attendus, notamment le rôle de l'aîné, qui est toujours un rôle à part. Le statut du dernier, toujours un rôle à part aussi. Alors parfois un peu abandonné, parfois hyper choyé, hyper couvert. Et puis il y a la place du milieu. Ici, Caïn, c'est le fils aîné, et dans le monde antique, c'est l'héritier premier, le digne successeur, celui qui porte l'espoir de la famille. Et encore aujourd'hui, on voit ce poids sur les épaules des aînés, qui sont souvent les responsables des plus petits, en même temps des vis-à-vis privilégiés des parents, et puis qui portent sur leurs épaules des attentes très lourdes, parfois trop lourdes, presque des parents bis. Donc il y a une égalité quand on parle de fraternité et de fratrie, et en même temps, il y a des différences. Et parfois, une hiérarchie. Et puis, dans une fratrie, il faut bien que chacun trouve sa place, il faut bien que chacun existe pour ce qu'il ou elle est, et donc, chacun se démarque des autres avec ses dons, sa personnalité, ses aspirations, et on le voit là. Caïn apporte ce qu'il sait faire, Abel apporte ce qu'il sait faire. Ils apportent ce qui correspond à leurs occupations respectives. Et ça vient un petit peu questionner l'égalité. Comment recevoir, comment traiter de façon égale deux personnes différentes, avec des dons différents, des apports au monde différents et uniques. Qu'il y a une tension. Et cette tension nous amène à une autre tension, la tension entre égalité et liberté. Alors quand notre Constitution évoque la liberté, elle parle d'une liberté fondamentale de l'individu, liberté de mouvement, de conviction, de choix, dans la limite de ce qui ne nuit pas à autrui. Je pense que vous l'avez entendu plusieurs fois dans la nuit. Mais il me semble que Dieu se montre très libre lorsqu'il accepte l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Lorsqu'il pose ce choix d'accepter une offrande et pas l'autre, il est d'autant plus libre qu'il ne s'explique pas. Voilà, il pose ce choix et puis c'est tout. Nous, on peut trouver des raisons, chercher des indices, c'est la joie de l'exégèse. Mais en fait, Dieu fait ce qu'il veut. Et ça, c'est la nature de la liberté. Une nature qui est indomptable, qui ne s'explique pas toujours, qui n'est pas toujours facile à enfermer dans des raisons, des processus. Sinon, c'est plus de la liberté. Si on peut tout expliquer et tout prédire à l'avance, c'est plus de la liberté. C'est dans cette nature indomptable de la liberté de choisir certains chemins et pas d'autres. Si on n'avait que la valeur de l'égalité, ça pourrait conduire à une certaine uniformité, surtout si on s'appuie sur une certaine vision de la fraternité. La liberté risque de s'étouffer lorsque l'égalité est trop stricte. Et en même temps, c'est elle qui permet à chacun, chacune d'exister pour ce qu'il ou elle est. À côté de ça, même si la liberté est nécessaire pour que chacun puisse se déployer, on voit qu'elle vient un petit peu fragiliser l'égalité par des choix qui sont posés. Elle introduit la tension de la différence dans l'être, voilà, je suis ce que je suis, dans le choix et dans l'agir. Je pose l'action que je pose et puis... J'en pose pas d'autre. Je suis un chemin et pas un autre. Alors, quelques surprises du texte quand même. Il y a une petite ironie dans le texte. C'est qu'en favorisant le cadet, le petit, le second rôle, le choix de Dieu vient renverser la hiérarchie sociale admise et attendue par Caïn. Alors vous allez me dire, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde autour de lui dans le texte, mais on sent bien qu'il y a cette attente de fils aîné. Ah, c'est moi le fils aîné, c'est moi qui prends les premières places, les premières parts. Et Dieu vient renverser ça. Il vient contredire cette attente de Caïn. Et du coup, par son choix, Dieu rétablit une forme d'égalité. Il y avait Caïn qui était au-dessus, Abel qui était en dessous, et puis hop, Dieu redonne une place à Caïn, à Abel. Je vérifiais que, mais vous êtes un peu endormi. Il n'y a pas eu de... Il vient un petit peu redonner une place à Abel. De près, on se dit, oh là là, la décision de Dieu, elle est pas juste. Mais de loin, on voit qu'il a redonné une place aux petits, aux seconds. Chacun a des privilèges. Seulement, lorsqu'on est le premier, c'est pas facile d'être beau joueur et de laisser ses privilèges. On le voit tout de suite, hein. Caïn se sent lésé. Il n'a pas été rejeté, lui. Juste, son offrande n'a pas été acceptée. Mais lui, il n'y a pas eu de mots durs, il n'y a pas eu de condamnation. Mais Caïn le prend mal. Il est jaloux devant ce choix qui est perçu comme injuste. Et je trouve que sa réaction nous alerte sur la difficulté à concilier l'égalité et la façon dont on va honorer les efforts de chacun, les différences de chacun. En gros, je veux bien être égale aux autres, mais un peu plus que les autres. Ça, c'est l'ego qui parle, hein. Mais sur un plan plus théorique, comment faire droit à l'égalité de valeur de chacun chacune et en même temps reconnaître leur rôle ou les efforts particuliers dans leurs différences. Revirement dans le texte. Dieu porte l'essentiel de son attention à Caïn, au jaloux, à celui qui boude. Pas de façon très légitime, hein, mais à celui qui boude. Abel est quasi absent du texte alors que Dieu cherche, et cherche une deuxième fois Caïn, d'abord pour crever l'abcès, et ensuite pour demander des comptes après la mort d'Abel. La première fois, Dieu vient auprès de Caïn, sans sermonner, attentif, prévenant, soucieux de celui qui est rejeté. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. T'as pas l'air bien après ce qui s'est passé. Raconte-moi ce qui se passe. Là aussi, il lui redonne une place. Et puis la deuxième fois, Dieu vient faire justice, mais il entend la crainte d'Abel et il est prêt à protéger le criminel qu'il vient de sanctionner. L'attitude de Dieu démontre son attention, son amour envers les deux hommes, même s'il ne s'astreint pas à l'exprimer de la même façon. Alors je retiens deux pistes pour nous. D'une part, ce texte alerte sur la fragilité de ces trois valeurs, liberté, égalité, fraternité, adelphité, surtout quand elles sont ensemble, car on voit bien qu'il y a une tension et des tiraillements entre ces valeurs. Le jeu des libertés vient interroger, fragiliser l'égalité, la fraternité, mais en même temps, si on n'a pas la liberté, on tombe dans une objectivité uniforme, impersonnelle. Pas objectivité, une uniformité impersonnelle. La solidarité, quant à elle, vient limiter la liberté. Mais la liberté sans fraternité, elle est égoïste, elle est cruelle. Alors il faut ces valeurs ensemble. On sent bien que c'est des valeurs qui, tenues ensemble, nous empêchent de nous égarer dans des caricatures de la société. Ces valeurs nous proposent un équilibre en tension pour que tous et toutes aient la liberté d'être soi ensemble, mais c'est une tension. C'est pas si simple à vivre ensemble. Et qui dit tension dit lot d'émotions qui peuvent en ressortir. Et donc Caïn est un triste exemple. Et c'est dans ces tiraillements qu'il faut avancer et négocier. Et je termine avec l'attitude de Dieu dans ce texte qui nous montre une certaine compréhension de l'égalité. Dieu ne se préoccupe pas de rentrer dans les attendus d'une hiérarchie sociale bien humaine. Les privilèges du fils aîné, alors lui, ça lui est complètement égal. Et il pose sa liberté devant nos conventions, nos attendus, très humains, très enfermants. Il voit au-delà. Mais Dieu ne se préoccupe pas non plus d'une égalité de principe. Franchement, ça aurait été tellement plus simple qu'il accepte les deux sacrifices, les deux offrandes. Voilà, on n'aurait pas eu la suite. Quoique, je me dis peut-être que Caïn aurait quand même été susceptible et se serait dit non. Il aurait dû recevoir mon offrande et pas celle du petit. Il aurait dû me recevoir mieux. Ben, je suis l'aînée quand même. Donc on ne sait pas jusqu'où aurait pu aller la susceptibilité de Cain. En tout cas, Dieu ne se force pas à traiter les deux frères selon une égalité théorique plaquée sur la situation. Et en même temps, à plusieurs reprises dans ce petit texte, Dieu donne la priorité au second, au petit, au marginalisé. Le second fils d'abord, celui qui est dans l'ombre, celui qu'on ne voit peut-être pas beaucoup. Et ensuite, à l'aîné qui se sent rejeté. Dieu se passionne pour les seconds, ceux qui sont le plus loin. Et il ne regarde pas seulement les victimes, c'est peut-être ce qui est frappant dans le texte, hein, c'est qu'il regarde aussi les coupables, ceux qui devraient être déchus de leurs droits, déchus de leur égalité avec les autres. Ils ont trahi cette fraternité. Et pourtant, Dieu cherche, recherche, poursuit sans relâche celui ou celle qui est en second, dans l'ombre, un peu plus loin, aux marges. Celui ou celle qu'on ne voit pas, comme le petit frère. Celui ou celle qui se cache, qui fuit, ou qui se perd. Et j'ai l'impression d'un Dieu qui, avec souplesse, vient toujours étendre la main vers le plus éloigné. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'égalité, hein, mais on peut parler d'inclusion. Avec Dieu, chacun, chacune est accueilli. Les plus distants sont toujours invités à se rapprocher du centre, à toujours revenir. Il y a toujours une place nouvelle qui est faite pour eux. Alors, ça dépasse l'histoire de Cain et Abel, puisqu'on va retrouver ça dans toutes les Écritures, dans les psaumes, dans les évangiles. C'est ce Dieu-là que Jésus ne cesse de présenter. Un berger qui cherche une brebis perdue, alors qu'il y en a 99 autres qui attendent. Un père qui offre un festin à son fils renégat. La promesse du salut et de l'amour offert à ceux qui ne le méritent pas. Je ne sais pas si on peut parler d'égalité au sens strict, mais en tout cas, on peut parler de grâce. Et dans cette grâce, il y a une place pour tous et toutes.